de vin.
Toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène,
l'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? C'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 2 décembre 2021. Ça y est, nous sommes en décembre, l'hiver n'est pas loin et nous avons des actualités avec Laurent qui serait valable à toutes les saisons, il me semble, hein, quand même. Alors nous allons parler de la double peine des immigrés, de l'égalité des droits avec le référendum en Hongrie, de France-Afrique, de Thalès, d'Antipub, peut-être de Zemmour, d'IVG en France, de pâte à papier, oui, oui, et puis de petites grèves aussi, parce que ça continue de partout.
Et c'est donc moi qui vais commencer. Donc on a omis de parler de Omicron, cette lettre grecque que nous utilisons assez peu, même nous les scientifiques, où on est plutôt du côté d'oméga, de alpha, de plein de choses comme ça. Celle-là, elle n'apparaissait pas. Non, on va plutôt parler de choses dont les autres médias parlent peu. Là, je vais commencer par une actualité qui est liée à des chiffres qui sont sortis de la part de la direction, du ministère du Travail, de la DARES, très exactement, qui nous réexplique, nous redisent quelque chose qu'on connaissait mais qu'on ne dit jamais assez et qu'il faut répéter sur ce que j'ai appelé, moi, la double peine que subissent les immigrés. Alors, pas une double peine en tant que truc judiciaire, hein, bien évidemment, mais en tant que double peine sociale. Alors, on va parler donc des métiers que font ces immigrés. Alors en France, si on suit les chiffres de l'INSEE, il y a 2,7 millions de travailleurs d'origine immigrée. Grosso modo, ça représente une personne qui travaille sur 10. Alors attention, la définition d'immigré est la suivante. Il en faut une pour pouvoir faire des chiffres quand on est statisticien. Ils estiment qu'une personne est immigrée, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger. Et qui ensuite est venue en France. Elle est peut-être devenue française depuis, mais ce qui compte en termes de travail, et notamment en termes de diplôme, c'est ça qui est important dans ces chiffres-là, c'est d'être né étranger à l'étranger, et d'être venu ensuite vivre et donc travailler, puisque on parle du travail, en France. Voilà la définition. Donc dedans, il y a des gens qui sont devenus français, hein, ils ne sont pas étrangers, entre guillemets. Donc on parle d'immigrés et pas d'étrangers. Donc cette moyenne de 10% cache en fait des écarts très importants selon les métiers. Et on va voir que les chiffres sont vraiment prévisibles, mais toujours les mêmes. Hein. En fait, c'est simple, les métiers où les immigrés sont surreprésentés connaissent le plus souvent des conditions de travail plus difficiles que la moyenne et des salaires plus bas. C'est les métiers pénibles physiquement, hein, aux gestes répétitifs, aux horaires décalés, voire morcelés et décalés. Tout ça additionné. D'ailleurs, les chiffres du ministère du Travail calculent la probabilité d'avoir un métier pourri. Ça veut dire ça quelque part. En fait, à chaque fois qu'il y a une annonce, il y a 1,4 fois plus de chances que pour un métier pourri, ce soit finalement un immigré qui le récupère parce que les autres en veulent pas ou qu'ils ont, enfin, qu'ils peuvent y échapper. Hein, c'est aussi ça dont il est question. Alors, on en est où ? Bah, aujourd'hui, dans la surreprésentation, donc on a dit dans les chiffres de ministère du Travail, il y a 10% d'immigrés, il y a 10% de travailleurs qui sont immigrés. Dans les employés de maison, ils représentent 38,8% des travailleurs, donc ils sont surreprésentés. Dans les agents de gardiennage et de sécurité, 28,4%. Dans les ouvriers qualifiés, dans le bâtiment, gros œufs, béton, tout ça, 27% de travailleurs immigrés. Dans le gros œuf, dans le reste du bâtiment, 24,8%. Dans les cuisiniers, 22%. Dans les employés agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration, donc un peu en dessous des cuisiniers, 19,3%. Dans les travaux publics, autres que ceux que j'ai cités tout à l'heure, il y a voilà, ceux qu'on voit notamment dans la rue, etc., 19,3%. Agents d'entretien, 17,4% de travailleurs immigrés. On voit bien que ils sont surreprésentés dans ces métiers-là. Et ça, il y a une certaine, logique qu'on connaît bien et qu'on peut expliquer parce que ce sont des emplois qui sont pas acceptés ou moins acceptés par les non-immigrés et donc, et ben quand on est immigré, qu'on arrive sans argent, qu'on n'a pas le choix, on prend ce qu'on peut et donc on se fait plus facilement exploiter. Hein, les métiers de la sécurité, du nettoyage, on connaît bien ça, de l'aide à la personne. Il faut rappeler quand même que, et c'est ce que disent les chiffres, hein, ce que disent les chiffres du ministère du Travail, c'est qu'en fait, quand on regarde toute une partie de nos infrastructures, hein, on pense aux bâtiments, mais aussi aux routes, aux ponts, en fait, sont bâties par des personnes nées à l'étranger. C'est la même chose pour les réussites industrielles. On a l'image de l'automobile autrefois, mais c'est toujours le cas aujourd'hui dans l'agroalimentaire, par exemple. Tout ça serait pas possible sans l'apport de ces populations immigrées. Ils sont toujours traités par les employeurs comme une main-d'œuvre bon marché. Et les employeurs sont des fois actifs pour aller les chercher. On pense notamment au travail saisonnier dans l'agriculture, où ils vont démarcher des personnes, notamment dans les pays de l'Est, pour les récupérer avec des coûts très très bas, des conditions de travail et d'hébergement exécrables. Voilà. Donc cette double peine, en fait, là c'est les chiffres qui sont tirés, qui sont donnés par le ministère du Travail. C'est sorti en partie à la fin de l'été, ça a été analysé et c'est l'analyse que voilà, recentré, remis un petit peu en forme. Ça démontre que on a toujours un petit peu cette même situation de précarisation. Alors ils en parlent pas trop, mais c'est toujours un phénomène sous-jacent à tout ça. Et surtout, les métiers les plus pourris sont réservés, alors sont pas réservés, mais sont pris quelque part par ces populations. Alors il y a d'autres facteurs qui interviennent, les diplômes, parce que ça aussi c'est un facteur discriminant quelque part. Alors d'abord, 30% des immigrés n'ont aucun diplôme. La population française, c'est 12%. Donc effectivement, ils arrivent moins ou pas diplômés, beaucoup plus que les gens qui ont grandi ici. Et donc, c'est compliqué. Pourtant, ce qui est assez drôle, dans les immigrés, il y en a 17% qui ont un niveau Bac plus 5. C'est plus que la population française, qui est à 14%. Comme quoi, il y a des disparités assez incroyables. Hein. Et puis, il y a une autre problématique est responsable en partie de l'exploitation des immigrés, c'est la non-reconnaissance de leurs diplômes, de certains diplômes par la France. Ouais, on pense à certains médecins, entre autres, hein, donc des gens ultra-diplômés dont le diplôme de médecine n'est pas reconnu, et puis il y a plein d'autres cas, et beaucoup, beaucoup. Ce qui fait qu'ils arrivent, ils ont un diplôme, et ils n'arrivent pas à travailler avec, donc ils sont obligés de prendre les métiers qui restent, et donc ils se font exploiter, etc., etc. Donc voilà, se rajoutent là-dessus les discriminations liées à l'origine, etc., qui font que c'est vraiment pas facile de venir en France et d'immigrer et d'avoir une vie à peu près correcte. Hein, voilà. Donc ces chiffres, c'est une analyse officielle hein, du ministère du Travail, ça reprécise tout ce qu'on connaissait déjà mais qu'on redit jamais assez, que l'industrie même toute l'économie française ne pourrait pas tourner sans l'immigration et que les patrons sont bien contents de les exploiter. Ça, c'est carrément ce qui se cache derrière tout ça. Il faut quand même le dire. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que les chiffres étaient tout chauds en termes d'analyse.
Alors après, les discriminations, égalité des droits en Hongrie.
Oui, bah alors c'est un peu ce qui pourrait se passer en France. Si jamais la clique des réactionnaires, on pense à Zemmour, Le Pen, Ciotti et d'autres, arrivaient au pouvoir. On va aller voir ce qui se passe en Hongrie, ça donne un peu une idée de ce qui pourrait nous arriver. Ça fait peur un peu. Alors on se rappelle de la loi punissant la promotion de l'homosexualité et de la transidentité que le gouvernement hongrois annonce et et donc validera très bientôt, a déjà fait passer, mais voilà, ça va rentrer dans le... Je vais reparler sur l'enfance, tout ça, tout à l'heure. Mais là, il prépare, justement pour cette loi, un référendum sur l'identité sexuelle et sur le genre. Alors c'est tout biaisé, vous allez voir pourquoi. Donc en fait, on se rappelle, hein, le 21 juillet dernier, il y a ce vote, le vote de cette loi, là, prohibant la promotion, la représentation de l'homosexualité et de la transidentité auprès des mineurs. Donc Orban était très fier, hein, de cette loi. Je vous rappelle, c'est le Viktor Orban, le chef du gouvernement et le chef du parti Fidesz, qui était très fier. Et du coup, dans la lignée de ce truc horrible, il annonçait un futur référendum. Grosso modo, à l'époque, il disait c'est un référendum sur une loi sur la protection de l'enfance, sous-entendu une loi anti-LGBT. C'est de ça dont il est question. Et ce mardi, l'Assemblée nationale a ratifié l'initiative de référendum sans les députés de l'opposition, hein, qui avaient boycotté la séance. Et on commence à connaître le contenu de cette chose homophobe. Donc ce sera une consultation en 4 questions. Et c'est quoi ces 4 questions? Alors ils vont demander aux Hongrois s'ils acceptent... Alors première question, c'est aux Hongrois s'ils acceptent que les écoles publiques accueillent des modules sur l'orientation sexuelle sans le consentement des parents. Alors c'est drôle parce que, est-ce que les programmes ont le consentement des parents, les autres programmes? Ben non, jamais. Mais là, d'un seul coup, on pose cette question biaisée pour que les gens répondent non, bien évidemment. Est-ce que les écoles publiques doivent soutenir la promotion des traitements de changement de sexe pour les mineurs? Est-ce que les écoles publiques doivent appuyer la représentation sans restriction devant les mineurs de contenu médiatique à caractère sexuel affectant leur développement? Et la dernière des questions, est-ce que l'école publique doit diffuser de contenus médiatiques en lien avec le changement de sexe? Forcément, quand on pose des questions orientées de cette façon-là, on a la majorité de la population qui va répondre non. Alors, en plus, les Hongrois sont majoritairement quand même assez réactionnaires sur les questions sociales et sur les questions de la famille. Mais alors, quand on pose les questions de cette manière-là, il est sûr d'avoir un non. Alors, il y avait une 5e question sur le changement de sexe, sur les traitements de transition, très exactement. Et ça a été retoqué par la Cour constitutionnelle. Alors, la date du vote est pour l'année prochaine, mais on n'a pas la date précise, même si on commence à avoir quelques petites idées sur le moment où ça va arriver. Puisque, en fait, le 9 novembre dernier, il y a un amendement qui a été voté, qui permet d'organiser le référendum le même jour qu'une élection. Et donc, comme en avril prochain, il y a les législatives, ça va être sûrement le même jour. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette loi, finalement, c'est de faire parler d'Orban, qui se représente et qui n'est pas sûr de gagner. Et donc, du coup, avec cette loi qui va être votée, donc avec ce référendum qui va entraîner la loi après, il va être voté le même jour que l'élection. Ça va inciter les gens à voter pour lui. Et c'est tout ce jeu de politique politicienne qui est mis en jeu par Orban, qui est un vrai réactionnaire homophobe quand même. Mais là, il se sert de la question pour cette prochaine réélection du mois d'avril. Alors après, il y a, comme d'habitude, les attaques contre ce qu'ils appellent un lobby gay ou un lobby LGBTQ. Il y a, par exemple, un site qui s'appelle Origo, qui est un site de droite dure, voire d'extrême droite, qui milite pour ce référendum et qui dit, je cite, « Ce référendum offre la possibilité à tous de dire non au lobby LGBTQ et d'affirmer que seuls les parents peuvent décider de l'éducation sexuelle des enfants. » Alors, la question de l'éducation sexuelle des enfants, elle se pose dans la société. Est-ce que c'est l'école qui fait de l'éducation doit aussi faire de l'éducation sexuelle? Il y en a forcément plein, dès qu'on fait de la SVT, de les sciences de la vie, des sciences naturelles, comme on disait au 19e siècle. puisqu'on apprend ce que c'est que comment les mammifères dont nous faisons partie se reproduisent, comment d'autres espèces se reproduisent, etc. Donc ça y est indirectement, mais il faut surtout pas aborder ça frontalement. Même en France, ça reste un truc très compliqué, très tabou, la sexualité et la reproduction, du coup, puisque c'est quand même ça qui est lié. Et c'est par ce biais de la reproduction, d'ailleurs, qu'on arrive à parler de sexualité. On n'arrive jamais à dissocier, même dans l'école française, ça c'est difficile d'arriver à parler de la sexualité en dehors de la reproduction, ce qui est un énorme travers, hein, puisque la sexualité, c'est pas forcément de la reproduction, on le rappelle, mais ça reste compliqué.
Tu voudrais dire qu'il y a du plaisir dans la sexualité aussi?
Juste, c'est tabou.
C'est pas ton sujet, mais
non,
voilà.
Non, mais c'est une vraie question, hein, sur la manière d'aborder. Et ce qu'ils veulent pas, c'est ça, justement. C'est aborder la question sexuelle en tant que tel, hein, mais ils sont super réactionnaires et c'est de ça dont il est question. Donc voilà, c'est voilà de la politique politicienne. Alors on sait, on rappelle la dernière loi qu'on dit controversée sur la promotion, enfin contre la promotion soi-disant de l'homosexualité et de la transidentité qui a été votée, qui avait énervé l'Union Européenne. Presque tous les pays ont réagi. Ursula von der Leyen, donc présidente de la Commission Européenne, s'était dit scandalisée. Il y avait normalement une procédure d'infraction qui était lancée contre la Hongrie. Je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Donc, mais la Hongrie ça s'accroche et continue dans cette démarche réactionnaire, homophobe, puisque c'est de ça dont il est question. Et en laissant les parents décider de tout pour les enfants, notamment donc de l'éducation sexuelle, mais quelque part derrière de l'orientation sexuelle, puisqu'il n'y a qu'une orientation sexuelle qui est acceptée et acceptable pour ces petits fachos de la FIDET, hein, c'est la FIDET, c'est l'hétérosexualité. Donc voilà, on en est là. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant pour nous quand on voit les candidats qui se présentent à l'élection présidentielle et qui sont assez proches. Hein. On rappelle, Zemmour, Le Pen et d'autres sont allés faire allégeance quelque part à cette référence des réactionnaires qu'est Viktor Orban. Voilà ce que je voulais dire.
Nous allons continuer avec la...
Il y a que moi qui parle.
Le convoi maudit, il y a un petit peu de l'ordre ce soir dans nos sujets.
Ouais, d'accord, c'est un truc un peu drôle. Enfin, drôle. Il y a eu des morts. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse associer le terme drôle à des morts, mais c'est quand même un truc rocambolesque. Donc, il y a une colonne de l'armée française qui a été destinée à alimenter les différentes bases du Sahel. La France a des bases militaires là-bas. Il était parti il y a 2 semaines de la Côte d'Ivoire pour rejoindre Gao, qui se situe donc au Mali. Un énorme convoi, hein, 90 camions. Alors, et ça passait forcément par le Niger et le Burkina Faso. Et ben, ils ont eu plein de problèmes sur la route, ces petits soldats avec leurs camions pleins de choses. Il y a eu manifestation, grosso modo de la résistance des populations, enfin d'une partie des populations, qui semblent très exaspérées par la présence néocoloniale, dirons-nous, française, dans cette région de l'Afrique. Souvent, la présence française est encore perçue comme une force d'occupation. Ça se discute en termes d'occupation. En tout cas, c'est une vraie force qui sert les intérêts de l'État français et des différents États contre les peuples. Ça, on en est, par contre, vraiment sûr. On pense notamment aux intérêts économiques, hein, au Niger, il y a les mines d'uranium notamment. Enfin, voilà, c'est la raison principale, hein, quand même, de la présence française là-bas. Et donc, au Burkina Faso, notamment, la caravane militaire a été bloquée à plusieurs reprises par des manifestations et des manifestants avec des barrages. Enfin, voilà, ça a bien bloqué quand même. Et samedi dernier, c'était au Niger, cette fois-ci, juste après, à Tillabéri, grosse barricade, notamment dans la ville de Terra. Et là, il s'est passé un truc, c'est que les Nigériens étaient là, jetaient des cailloux et gueulaient des slogans anti-français et anti-armée française. Et les soldats sont sortis et ont tiré. Donc on en est là aujourd'hui, une confrontation qui était ultra disproportionnée, et l'armée française a ouvert le feu sur des civils désarmés. C'est quand même choquant. Donc il y a eu des blessés au Burkina Faso, et il y a eu, donc au Niger dont on parle actuellement, au moins 2 morts, peut-être 3. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Alors, on va essayer de détailler. Il n'y a pas que le côté. Alors, dès que la France intervient, il y a tout de suite l'image de l'ancien colonisateur qui arrive. C'est une réalité. Parce que le colonisateur a mis en place un système de colonisation indirecte, économique, qu'on appelle la France-Afrique, hein, dont le terme a été popularisé et inventé par le fondateur de l'association Survie, et qui est resté très fort et qui est toujours existant. Donc il y a toujours ce truc de l'ancien colonisateur vient. Il pourrait venir faire des choses bien, mais il vient pas faire des choses bien, l'ancien colonisateur. Donc les populations ont cet état d'esprit, hein, un peu réticent vis-à-vis de la France, ce qui est relativement logique. Hein. Mais il y a aussi des populations qui sont excédées par tout ce qu'ils vivent, par les tueries qui sont quasi quotidiennes, par les forces de défense et de sécurité de leur propre pays qui jouent pas le jeu. Hein, qui jettent, on a des gens qui sont obligés de partir de leur village, qui deviennent des réfugiés dans leur propre pays. Il y a une situation qui est quand même très compliquée au Mali, au Burkina Faso, un peu moins, mais aussi, ce qui explique un petit peu la réaction. Parce qu'ils s'en prennent pas que à la France, en tant qu'armée, on va dire néocoloniale, mais ils s'en prennent à la France parce que la France vient soutenir l'incompétence, finalement, l'inaction réelle des armées de leurs différents pays, qui en fait s'en foutent pas mal, finalement, d'obtenir la paix et que les populations puissent arriver à vivre à peu près tranquillement. Hein, donc voilà ce qu'il en est. Et d'ailleurs, dans les manifestations, les dirigeants africains sont aussi pris à partie. Il n'y a pas que, même si c'est majoritairement la France, parce que là, on a un convoi français, on a les dirigeants africains qui sont pris à partie pour leur incapacité à rétablir un semblant de vie correcte pour les populations exposées à ces groupes terroristes et djihadistes qui sont quand même très présents dans cette partie de l'Afrique. Donc voilà. Et d'ailleurs, les populations demandent que ça soit leur armée qui intervienne contre ces populations djihadistes, mais une vraie armée, et que ce soit surtout pas une armée néocoloniale comme l'armée française. Donc c'est un peu ce qui se passe. Alors vu d'ici, pas grand chose. Vu d'ici, hein, on a eu un bel article dans le Canard Enchaîné, vous savez, quand on ouvre le Canard Enchaîné, sur la première double page, en bas à droite, il y a toujours un truc sur ce qui se passe, un peu sur les interventions militaires françaises de partout. Donc essentiellement dans cette région africaine. Donc là, on a eu pas mal d'infos, on a eu quelques articles, mais alors sinon, rien. Alors faut dire que l'armée a diffusé des images, mais des images qui vont un peu dans leur sens, en montrant des gens méchants et eux, ils sont défendus. En gros, c'est ça. Hein. Ce qu'on voit quand même surtout, c'est que pour réprimer des manifestants non armés, les soldats français tirent d'abord des grenades lacrymogènes et puis sortent des armes automatiques et tirent à balles réelles, hein, puisqu'ils vont faire entre 2 et 3 morts, on n'est pas sûr pour le troisième mort. Donc voilà, il y a des témoins qui racontent, hein, ils expliquent, voilà, on s'est fait tirer dessus, on voulait manifester, et on comprend pas pourquoi cette armée vient tirer sur des populations alors qu'elle n'est pas chez elle. Là, on a une vraie armée qui n'est pas à sa place. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça montre bien le mélange qu'il y a entre ce que fait l'armée française là-bas, entre opération militaire et opération policière. Puisque là, on a des manifestants, ça s'appelle une opération militaire. Et l'armée française intervient dans une opération policière. Ils se prennent pour des juges, pour des policiers, pour des exécutants, pour des bourreaux, puisqu'ils vont assassiner des gens. On en est là aujourd'hui dans ces interventions de la France, et notamment à travers la force Barkhane. Donc grosso modo, ici, c'est l'omerta dans les médias dominants. On en parle très très peu. L'armée française vient de tuer des gens, et on n'en parle quasiment pas. C'est quand même relativement bizarre. Alors, est-ce que les médias dominants sont effrayés, manquent d'informations, ont pas d'envoyés spéciaux sur place? Je sais pas quelle est la vraie raison, ou ont pas envie de déplaire au gouvernement. Pourtant, ils sont capables de déplaire au gouvernement sur plein de sujets. Je sais pas ce qui se passe, parce que l'armée française est annoncée comme l'armée qui lutte contre le terrorisme, et que ces médias-là, ces journalistes-là, y croient, hein, qui sont là-bas pour ça et pas du tout pour protéger les intérêts économiques français. Je sais pas, en tout cas on a une absence d'information et c'est assez incroyable puisque des Français sont allés assassiner des populations civiles au Niger et voilà, normalement il devrait y avoir réaction, il devrait y avoir condamnation, il devrait y avoir ces gens-là devraient être mis traînés devant la justice, c'est le minimum quand on assassine des gens. Bah là non, tout le monde se tait, on ferme sa gueule, la France-Afrique continue encore et encore.
Thalès
Ouais, non, mais tu veux pas parler un peu, là?
Allez, on va parler d'autre chose, alors. Je vous emmène à Paris, ça s'est passé samedi. Je vais vous parler du collectif Résistance à l'agression publicitaire. Vous pouvez retrouver leur action sur le site antipub.org. Alors, c'est pas des révolutionnaires, les activistes de résistance à l'agression publicitaire. C'est des gens qui connaissent bien la loi, les règles, et qui, vous savez, se battent. Il y en a à Lyon, hein, de ces militants et militantes, qui sont battus quand il y a eu cette énorme publicité placardée sur un bâtiment Place Bellecour en rénovation. Ces énormes publicités qui nous agressent, hein, c'est bien l'idée. Mais ces militants et militantes, si c'est pas des révolutionnaires, en tout cas, ils font plein de choses. Et à Paris, samedi, se sont donc rassemblés à Bastille pour s'en prendre à quelque chose de bien précis. C'est l'affichage sauvage. Et alors, vous allez me dire, mais attends, nous, on n'est pas contre l'affichage. Ouais. D'ailleurs, il n'est pas sauvage.
Ouais.
Oui, mais là, il s'agit bien d'affichage de publicité.
Commercial, ouais.
Commercial, sauvage, ce qui n'est évidemment pas la même chose. Alors, ce qui est visé, ce sont toutes les agences de publicité qui proposent à leur clientèle de faire cet affichage illégal n'importe où sur les murs de la ville, en appelant ça, j'ai appris ça dans le communiqué de résistance à l'agression publicitaire, de guérilla marketing. Donc là, il s'agit d'une stratégie très poussée, très précise de ces agences, et ce collectif a décidé de s'en prendre en particulier à une agence qui s'appelle Carré Urbain, et donc est allé à Bastille à décrocher les affiches de cette agence. Hein, qui proposait à la clientèle ces espaces, nos espaces à nous d'habitude, les militants et militantes les ont décrochés et les ont donc ramenés à Carré Urbain. Bon, il faut savoir que deux militants et militantes se sont fait arrêter sur cette petite action. L'idée là,
ils n'avaient pas le droit de décrocher ces affiches.
A priori, ça a gêné qu'ils se les trimballent et qu'ils aillent les rejeter devant Carré Urbain. Donc, ils se sont fait interpeller. Il y avait une audition hier. C'est quand même assez hallucinant. D'ailleurs, ce que fait bien remarquer les résistances à l'agression publicitaire, c'est que si ces entreprises, elles ne faisaient pas du commerce avec tout un tas de marques qu'on pourrait connaître, que je ne vais pas citer, mais si par exemple elles prenaient un concert de rap, même dans un gros truc, même quelqu'un de très connu, des artistes de rue, on peut être à peu près sûr que ces agences se seraient fait taper sur les doigts, alors que là, comme elles vendent ces espaces à une clientèle commerciale tout à fait habituel.
Faut que tu m'expliques, parce que j'ai pas compris du tout ce dont il est question.
Alors, Carré Urbain, il propose, donc c'est une agence de publicité, ouais, qui donc propose à ses clients, des entreprises, de faire du dépôt sur des murs, dans des endroits complètement illégaux, de l'affichage.
Donc ils vont coller au nom des entreprises des affiches de pub.
Et voilà, et c'est ce qu'ils appellent la guérilla marketing.
D'accord.
Je vais vous la refaire dans le bon sens.
Ils font ce que nous on fait en fait.
Oui, simplement c'est pour du commerce. Et là où Résistance à l'agression publicitaire se bat, lance une nouvelle campagne, c'est pour faire fermer ces agences carrément. Il est à vous loin. Pour dire, attendez,
elles ont pignon sur rue, elles font des trucs illégaux. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, les citoyens puissent s'exprimer, pas la pub.
Voilà, c'est toute c'est tout le combat en fait de ce collectif, de se dire à un moment on veut lancer ces grandes campagnes. Alors on commence petitement, non mais parce que quand même vouloir faire fermer Carré Urbain, il va falloir quand même y aller. Mais l'idée elle est qu'on est dans une société où on a déjà beaucoup d'emprises sur nos murs. Ouais. Une emprise tout à fait légale par cette publicité dans nos métros. Vous avez vu ces fameuses publicités maintenant qui bougent en plus avec la vidéo et tout, c'est absolument affolant. Et l'idée c'est là de se dire, attends, pourquoi eux, ces agences là, elles ont le droit de faire ça, alors qu'à côté, quand toi tu colles ton petit truc de concert ou ton repas de quartier, t'as des emmerdes ou t'as l'affiche politique. Et ça c'est pas normal. Donc on va s'en prendre à ces agences qui nous polluent nos rues avec du commerce, de la publicité, et tout ça, on n'en veut plus. Donc voilà, c'est une nouvelle campagne qui est lancée à Paris, et donc il y a une demande auprès de la maire, madame Hidalgo, peut-être future candidate à la présidentielle, allons savoir, pour qu'il y ait une réaction face à ces agences qui font du pognon sur l'illégalité, sans jamais être inquiétées par qui que ce soit, alors que toi, quand tu colles ton affiche politique, tu le fais en courant.
Ouais.
Voilà, c'était donc l'action. Et donc, oui, il y en a deux qui se sont fait choper au passage. Je vais savoir pourquoi. Je vais continuer. Allez, on va parler aussi d'un truc qui ressemble. Enfin, on est un peu dans les mêmes idées de bizarre, des fois. C'est donc Monsieur Zemmour, vous savez donc, il a donc annoncé sa candidature. Ça y est, c'est fait. Cet animateur télé qui aime faire de la polémique a donc fait un grand clip de campagne. Enfin, en tout cas, c'est un clip pour annoncer sa candidature. Et dans cette vidéo, il y a mêlé tout un tas de choses, reportages, films, émissions, sans demander l'autorisation à qui que ce soit d'utiliser ces petits bouts.
Ça s'appelle du vol. Il a volé, il a utilisé de manière illégale des images qui n'étaient pas à lui.
Alors, oui, tout à fait. Il n'a pas demandé en tout cas l'autorisation et il n'a pas payé non plus. Ce sont deux choses hein, qu'il faut. Ça s'appelle droit d'auteur. Donc, pour un certain nombre, c'est du vol d'images. Alors, par exemple, ça fait marrer tout le monde. Hein. Par exemple, l'émission quotidien de la chaîne TMC, donc c'est le groupe TF1, estime que l'équipe de Zemmour devrait 100 000 euros. Alors, ce n'est pas 100 000 euros qui ont été pris dans la trésorerie de quotidien, on est bien d'accord. Hein, c'est, cet argent, il
n'existe pas.
Oui. Par contre, si jamais Quotidien estime qu'ils gagnaient et qu'ils arrivaient à récupérer ces sous, ils iraient les donner à des associations de migrants. C'est de la provocation, ça fait bien marrer, mais tant mieux. Parce que je veux dire, M. Zemmour, du coup, se retrouve un petit peu avec son équipe, quand même, dans une situation un peu bizarre. D'autant plus qu'il y a des gros, hein, quand même, qui sont dans la machine. On va y retrouver Gaumont, par exemple, qui n'a pas du tout apprécié le HuffPost. Donc, il y a des groupes qui, aujourd'hui, ne sont pas très contents et donc souhaitent se rebeller et dire, bah, nous, on veut notre pognon. Voilà. Alors, tout ça, ça pourrait se négocier hors des tribunaux, tout simplement, en sortant un petit peu le chéquier hein, du côté de l'équipe de campagne de M. Zemmour. En même temps, il est vrai qu'il y a un droit européen sur le droit d'auteur qui pourrait être favorable à M. Zemmour selon comment on entend ce que c'était que cette vidéo. Alors d'abord, YouTube... Ah, je vais plutôt aller sur le droit européen, si vous voulez bien, d'abord. Est-ce que cette vidéo, c'est de l'information dans le cadre d'une campagne électorale, ou est-ce que c'est une vidéo de propagande? Moi, je la vois plutôt comme une vidéo de propagande, puisque c'est la vidéo par laquelle M. Zemmour va annonce sa candidature. Par contre, effectivement, s'il avait fait une vidéo sur son programme très précis, en disant « Regardez dans cette vidéo du reportage de machin, on voit telle situation, je l'analyse et moi je vous propose que... » Là, on aurait le droit européen qui dit qu'il y a un droit à l'information avec une utilisation d'un certain nombre d'images qui pourraient être utilisées. Mais en tout cas, quand il a utilisé un Saint-Jean-Hiver dans son truc, on se demande bien d'un seul coup ce que ça vient faire là-dedans. Mais c'est comme ça, hein. Et puis il y a des soucis de musique, il y a tout un tas de choses. Donc, comment tout ça va pouvoir se résoudre, je ne sais pas. Certainement une partie va vouloir négocier, d'autres font un petit peu du tapage parce qu'il y a de la provocation. Et puis il y a l'affaire YouTube derrière, sur laquelle a été plateforme, sur laquelle a été diffusée cette vidéo. YouTube au début a dit ben non quoi, c'est quoi le problème? Alors que on a quand même des plateformes qui aujourd'hui peuvent être très sévères quand tu vas toi par exemple mettre tiens un petit extrait d'un match de foot que je sais que tu regardes tous les 4 jours. Là il y a des tas de gens qui se sont fait bloquer leur compte ou virer la vidéo parce qu'ils avaient mis une image sur laquelle ils n'avaient pas les droits. Mais parce que derrière il y a des ayants droit qui sont très réactifs aussi et qui demandent aux plateformes de faire fermer soit le compte parce que c'est trop fréquent, soit le post qui a été mis. Là YouTube au début a rien fait et puis finalement la vidéo, maintenant, elle est interdite aux mineurs. Parce qu'il paraît que le contenu est dangereux.
Oui, donc, mais du coup, YouTube autorise des gens quelqu'un qui ne respecte pas les droits d'auteur à diffuser.
Ouais.
Alors qu'ils ne le font pas pour d'autres.
Ouais. Mais parce que YouTube estime qu'on est plutôt dans une position d'information et que c'est plutôt sur ça que YouTube veut se passer. Mais du coup, elle reconnaît aussi que le contenu est dangereux puisque d'un seul coup, elle l'interdit aux mineurs. Alors, je ne sais pas comment... Peut-être que vous n'allez pas, d'ailleurs, vous n'avez jamais rencontré cette situation. Si aujourd'hui, vous voulez aller voir la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Vous cliquez donc sur le lien, c'est interdit aux mineurs, et vous vous dites, ah bah oui, c'est comme sur les sites d'alcool, il suffit de dire que, bah ouais, c'est on a 18 ans, et puis on s'en lave les mains, et puis voilà. Et ben non, parce que là, YouTube te demande soit d'envoyer une petite carte d'identité qui va prouver que tu es majeur, soit... De mettre ta carte bancaire en ligne. Alors on te promet qu'on ne prendra pas d'argent, mais normalement ça renseigne sur toi et donc comme ça Tu vas pouvoir aller voir ta vidéo. Oui, YouTube a mis en place des systèmes.
Ah. Du coup, ça limite vachement la diffusion de la vidéo.
Eh ben voilà, donc c'est l'intérêt de la chose. C'est ça que je vais dire, c'est que c'est pas si mal. Alors évidemment, ça a fait le buzz parce que Monsieur Zemmour, entre son doigt d'honneur, ses vidéos volées, ses situations où donc il est accusé d'avoir agressé des femmes, ses condamnations pour incitation à la haine raciale, toutes ces situations font pour l'instant qu'il est plutôt sur un pied de dansant, malgré tout, comme présidentiable dans cette campagne qui démarre tout juste pour lui. Là où on voit un petit peu des changements, hein, je t'ai raconté ça, c'est que sur un article du Monde, j'ai vu, donc c'est sur un article du Monde sur la vaccination, qui parle le titre est « Les assertions trompeuses du professeur Perron », bien qu'on connaît bien aussi dans le complot, comme quoi même chez les scientifiques, médecins...
Bah, on peut plus... Alors, les médecins ne sont pas des scientifiques.
Non, mais certains le sont.
Ils sont techniciens.
Et certains le sont.
Ouais, mais par contre, lui, il est...
Il est professeur quand même, à la base. Hein.
Ouais, mais il est... enfin, le professeur. Ah, bah, il est carrément à la rue.
Il est infectiologue, hein, quand même.
Et il dit que des contre-vérités scientifiques, ce mec.
Voilà, et donc, sur cet article-là, parce qu'il faut savoir que M. Perron et ça... a ému beaucoup donc le Monde et les décodeurs, j'en suis bien heureuse que ça les a émus, parce que Monsieur Perron, qui avait été un peu blacklisté des médias pendant quelques temps, est réapparu sur CNews pour donner
forcément l'extrême droite aime beaucoup les faux scientifiques, voilà. Les charlatans,
et donc le Monde nous dit que donc il est réapparu sur CNews, la chaîne d'extrême droite, et pendant longtemps CNews n'était pas traité de chaîne d'extrême droite comme Valeur Actuelle, par les autres médias, et donc c'est plutôt bien qu'il y ait ce changement qui apparaisse dans la presse, parce que bah oui, il faut mettre des mots sur ce qu'est ce média de Bolloré. C'est une chaîne d'extrême droite, ce n'est pas un problème en soi, média d'extrême droite existe, ouais. Mais il faut savoir le nommer et savoir vraiment ce qu'on est en train de regarder. Donc je trouve que c'est bien, ça fait du bien. Alors le Monde, c'est pas exactement un média de gauche, hein, en termes de libéralisme. Ouais, alors le gauche, moi je rappelle juste que être de gauche, c'est pas être contre le racisme, contre l'homophobie. Ça non, c'est des idées de l'humanité. C'est normal.
Ouais, mais les gens de droite, ils sont pas ça.
Alors ils sont pas tous homophobes et ils sont pas tous racistes. Ouais. Mais il faut sortir de cette idée que la gauche, ça serait que parce que dans le Monde, on peut pas dire qu'ils nous fassent de l'homophobie tous les jours. Non. Mais par contre, c'est un journal de centre droit, moi j'irais même, sur le libéralisme et sur l'économie.
Ouais, économiquement, ils sont de droite, oui.
J'irais bien quand même tirer. Et puis si tu m'accordes un petit temps, oui, je voulais aussi parler de la grève nationale, mais qui s'est passée aussi à Lyon, puisqu'il y avait un rendez-vous aujourd'hui à 14h devant le rectorat, des assistants d'éducation. Là encore, une profession dans la fonction publique dont tout le monde se moque. Et en particulier, l'éducation nationale, il faut quand même le dire, parce qu'éducation nationale aime bien avoir tout plein de gens dont elle se moque. C'est-à-dire des gens qui sont sous-payés, dans des conditions de travail pourries, avec des contrats de précarité assez importantes. Et donc aujourd'hui, c'était une journée de grève nationale pour ces assistants et assistantes d'éducation, ce qu'on appelle les AED, quand on veut mettre le petit nom. C'est à l'appel d'une coordination nationale, hein, donc des collectifs AED. Alors, c'est, si vous ne savez pas ce que font ces personnes, elles sont présentes dans les collèges et les lycées, elles accompagnent les élèves. Certains disent les encadrent, on les surveille. Et puis elles ont aussi en charge des tâches plus administratives à l'intérieur donc, de ces établissements. Le problème, c'est que là encore, on se retrouve avec l'éducation nationale qui maltraite ses travailleurs et ses travailleuses. Donc les revendications, c'est la création d'un statut d'éducateur scolaire. Ça serait bien, ça permettrait de titulariser des personnes qui aujourd'hui sont dans des contrats précaires. Hein, je vous rappelle, ça fait partie de ces contrats de l'éducation nationale. Vous êtes là pour un an, puis vous avez un peu le droit de rester encore après, puis après on vous met dehors. C'est-à-dire que... Voilà, donc ça veut dire que on pérennise pas le travail qui est fait, ni avec les élèves, ni avec les travailleurs et les travailleuses. On te met dehors facilement, donc finalement, des fois, on n'attend même rien de toi, puisque de toute façon, on sait que tu vas gicler vite fait. Une augmentation des salaires, parce qu'effectivement, ce sont des emplois qui sont sous-payés. Une réduction du temps de travail, et puis un droit à la formation, c'est-à-dire, justement, faire de cette mission un vrai métier, et pas simplement un truc de passage pour des jeunes... qui vont devenir des futurs travailleurs. Il y a une demande donc de recrutement massif sur ce travail-là, parce qu'il y a l'idée quand même que c'est une mission utile au sein des établissements. Et puis une obtention sur la prime REP et REP+, parce que bah, c'est marrant, il y a toujours des gens qui sont exclus des primes quand les autres à côté, les collègues les ont, et que pourtant on est dans des établissements qui amènent la même chose, même si on n'aime pas bien les primes par principe, c'est bien quand tout le monde l'a ou que personne l'est dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc ça c'était le rassemblement et la grève du jour national, et en particulier à Lyon aussi, devant le rectorat aujourd'hui.
Donc moi je vais parler un petit peu du capitalisme qui a toujours beaucoup aimé les dictatures, et aujourd'hui c'est l'exemple de Thalès. Alors en fait c'est différentes organisations ONG, il y en a quatre en fait, c'est Info Birmanie, Justice for Myanmar, Reporters sans frontières et Sherpa. Donc ces quatre organisations dénoncent les exportations de technologies militaires effectuées par Thales, donc géant français, multinationale française de l'armement et de l'information, de la surveillance. Hein, ils font les radars d'aéroports et puis ils font plein de trucs militaires aussi, des choses comme ça. Donc qui ont, à travers un partenaire indien, vendu plein de choses à la junte birmane. Alors qu'il y a des restrictions suite au coup d'État de février 2021. Donc ces ONG appellent Thales à cesser ses exportations et demandent aux autorités françaises de prendre les mesures nécessaires. On va détailler un petit peu les choses. En fait, c'est une enquête qui est sortie il y a un petit moment. C'était au printemps de cette année, faite par Justice for Myanmar, qui expliquait que Thales, donc l'entreprise française, travaille avec une entreprise indienne qui s'appelle Bell. Alors Bell, c'est l'acronyme de Bharat Electronics Limited, qui est un fournisseur particulièrement proche de la junte birmane, donc des militaires qui ont pris le pouvoir de force en Birmanie ou au Myanmar, hein, le nom officiel de la Birmanie. Donc à partir de ces révélations, donc ces quatre ONG ont interpellé Thales d'abord dans un courrier, c'était le 26 novembre dernier, en demandant à l'entreprise d'arrêter tout transfert de technologie et toute vente de matériel vers la junte à travers cette entreprise Bell. Voilà ce qu'ils ont demandé. Bon, bien évidemment, Thales n'en a rien à foutre. Ça, il fallait s'y attendre. On sait qu'il y a de vrais liens, hein, entre Bell et la junte, mais ça n'a pas l'air de gêner aux entournures Thales, en tout cas la direction de Thales. Donc voilà. Alors, il y a des détails. Hein. Il y aurait eu au moins 7 exportations de radars, spécialité de Thales, hein, et d'autres équipements, donc au profit de la junte birmane, à partir du 1er février 2021, alors qu'il y avait déjà des sanctions internationales et européennes contre la dictature birmane. Ils ont aussi exporté un système de contrôle d'armes à distance qui est vendu à travers une entreprise qui s'appelle BTSL, qui est une joint venture montée par Bell et Thales, bien évidemment. Hein, ça veut dire Bell Thales System Limited, très exactement. Donc, au vu des informations qu'a récupérées Justice for Myanmar, il est quasi probable, même sûr, quasi sûr en fait, que la technologie partagée par Thales à travers Bell a été réexportée, donc vendue aux génocidaires, bon, on peut quasiment dire ça, hein, sur les Rohingyas, en tout cas à la junte, et qu'elle a servi donc à contrôler, surveiller, voire tuer les populations, puisque il y aurait au moins 1290 morts, hein, depuis la prise du pouvoir de la dictature en février de l'année dernière. Voilà. Alors, ce que dit notamment Sophie Brondel, qui est la coordinatrice de la structure qui s'appelle Info Birmanie, elle dit qu'il y a un besoin urgent d'un embargo mondial sur les armes en Birmanie. Alors on se dit, il y a un besoin urgent, mais pourtant il y a des interdictions, mais ça marche pas, ça suffit pas. Donc elle, et puis d'autres, hein, il y a aussi Sherpa à travers, par exemple, Laura Bourgeois, qui est la chargée du contentieux, du plaidoyer, c'est l'ONG Sherpa, qui dit un peu la même chose. Elle dit les entreprises françaises qui fournissent directement ou indirectement des armes, des outils militaires, des outils de contrôle des populations à des régimes totalitaires, il faut aller jusqu'aux sanctions. Parce que la règle, alors il y a une décision du Conseil européen, par exemple, qui a été renouvelée le 30 avril dernier encore, qui interdit, je cite, la vente et la fourniture au Myanmar, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. En fait, c'est assez clair. Thales n'aurait pas le droit de faire ça. Alors, il triche en passant par une entreprise intermédiaire. histoire que ça se voit pas, mais ça se voit. Donc voilà, ce que demandent ces quatre ONG finalement, c'est que, que ce qui est prévu dans les textes, ça soit appliqué. Thalès répond pas. Alors peut-être qu'ils iront jusqu'à aller en justice. Hein, c'est ce que fait Sherpa assez régulièrement, hein, donc pourquoi pas? Parce que le gouvernement dit rien, l'Union européenne fait comme s'il se passait rien. En fait, l'Union européenne se dédouane en votant, en prenant des décisions comme ça sur ah c'est la méchante dictature. Regardez, on interdit des trucs, mais en fait on ne fait jamais appliquer les choses. Pour ne pas toucher l'économie et les capitalistes, bien évidemment. Donc voilà, c'est la réaction donc de cette semaine, de ces quatre ONG qui essayent de médiatiser leur combat et puis qui iront peut-être en justice en espérant qu'un jour Thalès arrête de vendre des choses à ces dictateurs ou à ces juntes militaires, enfin tous ces gens-là, peu respectables et très meurtriers.
Alors il nous reste deux sujets.
Bah vas-y, je t'écoute.
Si tu veux. Alors, je vais partir d'une lettre ouverte des autrices et auteurs de bandes dessinées à la société MDS, entre autres, et au pouvoir public, hein, pour vous parler de cette problématique de pâte à parpi. Vous avez peut-être entendu que on manque de pâte à papier. Ça fait déjà longtemps. Ouais. Il y avait une petite crise en 2008 qui déjà avait fait monter des cours après. Enfin, mais c'est toujours un problème en 2021. Alors je vais donc partir de cette lettre ouverte, ça va nous permettre de découler plusieurs sujets. Donc je vais la lire et puis à un moment, comme ça on va s'interrompre tout au long de ce long communiqué. Le succès de la lecture de bandes dessinées a parfois des effets imprévisibles. Par exemple, celui d'appauvrir les auteurs et autrices. Comment cela est-il possible? Couplé à la crise du papier et du carton, la demande croissante en bandes dessinées en librairie a été cause d'un bond d'activité imprévisible chez les libraires bien sûr, mais aussi chez les distributeurs, entreprises puissantes et méconnues de la chaîne du livre, dont l'activité principale est de stocker et de livrer les ouvrages aux libraires dans de grands camions parcourant nos belles autoroutes. Donc la crise du papier et du carton, elle est importante parce qu'aujourd'hui, on a le développement de l'e-commerce, que tout ce que vous recevez, c'est dans l'emballage carton, hein, en général. Et puis qu'on a beaucoup de distributeurs qui changent aussi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être du plastique, des choses, et que maintenant, même pour coincer les trucs dans votre carton, vous avez souvent plus du papier à bulles, vous avez aussi du papier qui vient rembourrer vos cartons. Donc, on a encore plus d'utilisation de carton, donc de pâte à papier. Donc, il y a un manque, et ça se répercute, évidemment, sur la production de livres et de BD en particulier. Chez la majorité des distributeurs, cette crise de croissance s'est déroulée avec quelques soubresauts, mais sans difficulté majeure. Ce qui n'est pas exactement vrai, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la vente de papier, juste pour dire, aujourd'hui, ça ne va rien vous dire, hein, parce que vous allez me dire, ah bon, mais avant c'était à combien? Ça vaut 1 350 $ la tonne en octobre, c'est-à-dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a quelques années en arrière, on était à 900, c'est-à-dire que ça ne cesse d'augmenter. Ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, les gens qui fabriquent cette pâte à papier la vendent très cher aux éditeurs. Certains éditeurs ont changé le papier, mais d'autres refusent. Par exemple, dans le manga, il y a un papier un peu particulier. Et ben, donc les éditeurs payent plus cher ce grammage, payent plus cher ce papier. Donc, il y a une vraie répercussion, hein, quand même, malgré tout. Voilà. Donc, on nous dit, avec quelques soubresauts, mais sans difficulté majeure, mais pas chez MDS. MDS est une société de distribution sise à Dourdan, en Essonne, mais aussi au Benelux, filiale du groupe Média Participation, l'un des quatre principaux groupes d'édition de bandes dessinées en France. MDS distribue aussi des livres pour de nombreux petits éditeurs indépendants. Au total, ce sont plus de 120 éditeurs de toute taille qui sont dépendants de MDS. MDS, par exemple, ça a beaucoup de mangas. Ça a la société éditrice qui fait Naruto. Ça vous parle Naruto, hein, parce que en manga, c'est quand même vachement connu. Et puis que ça est cool, hein, parce que là, on parle des millions d'exemplaires, quand même, c'est un truc assez incroyable. Alors, ça continue. Pour faire face à la crise du papier ainsi qu'à la demande du lectorat, on aurait pu penser que Bruno Delru, président du conseil d'administration venant du monde de l'industrie pharmaceutique, mais président aujourd'hui de MDS comme de Dilicom, aurait eu la compétence et l'envie de prioriser la vision à long terme au bénéfice du monde culturel. Au lieu de ça, MDS semble avoir eu pour priorité les gains à très court terme, embauchant des intérimaires sous-payés, leur imposant des conditions très difficiles, au point que celles si et ce, si on préférait dans de nombreux cas travailler au dépôt Amazon de Dourdan, malgré la piètre réputation des conditions de travail proposées par la plateforme américaine. Donc là, on nous explique qu'en fait, MDS, dans son entrepôt, a les mêmes conditions de travail qu'Amazon, c'est-à-dire, c'est pas terrible, il faut bien le dire, mais c'est le principe souvent des entrepôts. Mais c'est une réalité, hein, dans les entrepôts d'ouvrages, de livres, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un travail quand même de forçat, hein, parce qu'il faut courir un petit peu de partout. Hein. Alors, je continue. Dans ces conditions, la situation ne pouvait que se dégrader. Les retards de livraison se sont accumulés au point que le 23 novembre, l'entreprise, MDS donc, a informé les libraires, brutalement et par courrier, de son incapacité à honorer les commandes de moins de 3 exemplaires d'un même livre, condamnant par là même les petites librairies possédant beaucoup de références ouvrages en un seul exemplaire, interdisant les commandes de clients ou les ventes de livres en médiathèque à l'unité. C'est-à-dire, ce qu'a mis en place MDS, c'est que tu ne peux pas faire une commande d'un livre. C'est-à-dire, toi, Laurent, tu as envie d'acheter un ouvrage, tu vas dans ta librairie de BD préférée et tu dis, est-ce que tu peux me le commander, s'il te plaît? Et bien là, il va être bien emmerdé parce qu'en fait, il est obligé, si c'est chez MDS comme distributeur, d'en commander 3 d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va plutôt te dire non. Parce que rares sont les libraires, indépendants à se dire, bah ouais, je vais en commander 3, puis on verra bien. Alors qu'il y a une demande pour un seul exemplaire pour quelques séries de BD et d'ouvrages. Donc ça a posé un problème, et effectivement, après, il y a la vente aux bibliothèques et aux médiathèques. Hein, là, on a quelque chose qui est à l'unité, et on a des librairies indépendantes qui travaillent avec ces librairies, bibliothèques et ces médiathèques. Donc là, le syndicat de la librairie française a naturellement répliqué que ces conditions étaient scandaleuses, considérant que les libraires ne pouvaient s'engager sur des livres distribués par MDS, au moins jusqu'au fait. Le syndicat de la librairie française leur envoya même une affichette présentant les logos des éditeurs concernés et invitant les clients des libraires à se orienter vers d'autres éditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup stocké dans les librairies, hein, qui ont fait des montagnes pour les ventes de Noël. Oui. Hein, on a vu ça il n'y a pas très longtemps. Et en même temps, parce que ça concerne, alors là, la pâte à papier, c'est-à-dire qu'ils se sont inquiétés en disant, chez tel distributeur, on nous dit, oh là là, faites des stocks, on ne sait jamais. Mais par contre, chez MDS, le problème, c'est qu'il n'y a même pas les livres qui sont là, qui sont en commande, ils n'ont pas su se réorganiser face à l'apparition dans leur catalogue de nouvelles éditions qui vendaient beaucoup, et c'est ça qu'ils auraient reproché aujourd'hui. S'il y a évidemment un fort risque que certains clients se dirigent plutôt vers une plateforme en ligne déjà citée, gageons que les libraires sauront se tirer de ce brevet pas, conseillant à leurs clients d'autres ouvrages pour les livres les moins vendus, commandant 3 exemplaires des ventes plus conséquentes. Les petits éditeurs distribués par MDS risquent en revanche d'en subir les conséquences. Bon, bah là, on nous rappelle une chose, hein, c'est qu'un libraire, c'est un métier, ce qui n'est pas Amazon. Hein, c'est pas, Amazon n'est pas libraire, n'a pas cette aptitude à te conseiller pour acheter quelque chose qui saurait te plaire, surtout quand tu peux être client ou cliente régulier ou régulière dans ta librairie de quartier, ou en tout cas où là tu aimes acheter sinon aussi tes BD. Hein. Donc c'est pas sûr, hein, mais c'est vrai que ça peut sinon favoriser effectivement Amazon qui va se débrouiller. Parce que, on nous rappelle, mais derrière eux, déjà fragiles et n'ayant aucun moyen d'action, otage complet de la situation, les auteurs et autrices dont la présence en librairie est rarement supérieure à 2 ouvrages vont à coup sûr payer le prix fort de ce pugilat entre libraire, édition et distribution. Conscient qu'il est probablement vain de se diriger vers les pouvoirs publics qui préfèrent s'en aller visiter les mers de Chine que résoudre les problèmes pour lesquels ils sont mandatés, nous représentantes et représentants des autrices auteurs en action décidons tout de même d'interpeller Madame la ministre de la Culture et tous les acteurs et actrices de la chaîne du livre afin qu'ils trouvent rapidement une porte de sortie à cette situation scélérate, mettant en danger les plus fragiles des millions de cette chaîne suite à l'incurie et à l'imprévoyance d'un de ses composants les plus florissants. Nous, autrices et auteurs, exhortons les responsables de cette situation de blocage, à savoir la société MDS et le syndicat du livre français, à trouver rapidement une sortie de crise la moins impactante possible pour les auteurs et autrices qui, faut-il le rappeler, étaient déjà avant 2020 dans une situation de tension maximum. Nous refusons d'être des victimes collatérales et notre détermination n'a pas faibli. Nous ne sommes ni une matière première corvéable, ni une variable d'ajustement. Nous sommes des travailleurs et des travailleuses qui avons l'exigence à minima de vivre dignement de notre labeur. Sans autrice, sans auteur, pas de livre, pas d'édition, pas de distribution, pas de diffusion, pas de librairie, pas de lectrice, pas de lecteur. Et j'ajouterais, pas de pognon à la perche de certains et de certaines. Voilà, je tiens à signaler, c'est pas moi qui ai féminisé ce texte, il l'est dès le départ. Mais on a donc une société qui apparaît sur un secteur et qui n'a pas su réagir le prix de la pâte à papier, la désorganisation aussi du transport, hein, par exemple, en Italie, là où aussi il y a beaucoup de production d'ouvrages, il y a eu avec le Green Pass, hein, vous savez, ce pass vert pour se déplacer en temps de Covid, a fait baisser la circulation des camions et donc a réduit la circulation aussi de la pâte à papier et des ouvrages imprimés en Italie. Il y a une pénurie de main d'œuvre, en particulier des chauffeurs, bah écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis il y a l'énergie pour la fabrication du papier qui intervient aussi dans cette pâte à papier, qui aujourd'hui coûte très cher puisque les producteurs de pâte à papier font payer une taxe énergie aux éditeurs des ouvrages puisque ça leur coûte plus cher. Aujourd'hui, les éditeurs expliquent qu'eux ne savent pas, quand ils font produire des livres, combien ça va leur coûter à la fin, parce qu'aujourd'hui, ils commandent, mais ils ne savent pas le prix du tonnage à la production de leur ouvrage. Donc, c'est toute la chaîne, aujourd'hui, du livre qui est en difficulté, et MDS est donc accusé d'avoir pas su anticiper correctement toute cette commande, et avant Noël, ça fait un petit peu mauvais genre.
Alors, on va parler un peu d'interruption volontaire de grossesse. Maintenant, avec le vote, vous avez peut-être entendu, 63 voix pour, contre 30 et 6 abstentions pour augmenter le délai légal pour pratiquer une IVG. Donc, on passe de 12 semaines actuellement à 14 semaines possibles. Ça a été fait mardi dernier. La proposition a été examinée dans le cadre du débat sur une proposition de loi pour, je cite, « renforcer le droit à l'avortement ». C'était préparé par la députée écolo Alban Gaillot, une ancienne de La République En Marche, qui soulève depuis un an l'opposition. Donc c'est la loi qui soulève, pas la députée. Cette loi soulève l'opposition de la droite traditionnelle, réactionnaire, on connaît, mais aussi de Macron, bizarrement. Le texte avait été adopté, on le rappelle, en première lecture en octobre 2020. Donc ça fait un petit moment, mais avait été ensuite rejeté par le Sénat. On attendait depuis un an qu'un nouveau texte soit présenté au Parlement et on attendait que ce soit La République En Marche qui le fasse. Macron n'a pas voulu. C'est donc cette députée écolo, Alban Gaillot, qui l'a fait. Macron ne se cache pas que depuis, il a changé d'avis. Il s'est aligné sur les positions assez classiques de la droite réactionnaire, qui est toujours contre l'allongement du délai d'IVG. Il le rappelait en juillet de l'année dernière, quand il avait été interviewé par le magazine Elle, il avait dit qu'il n'était pas favorable, il était contre cet allongement à 14 semaines. Ça explique un petit peu. Jean Castex, d'ailleurs, avait lui aussi expliqué ce qui s'était passé quand la députée écolo avait déposé son projet de loi, son amendement. Sa proposition de loi, c'est une proposition de loi. Il a dit, le président est furieux, il ne voit pas pourquoi on rouvre ce sujet, alors qu'il y en a tant d'autres. Ça sert à rien de diviser encore la société. Pour eux, augmenter les possibilités offertes aux femmes de se faire avorter, c'est diviser la société. Finalement, le retour du texte a été poussé par Castaner, bizarrement. Alors le but, c'était d'essayer de récupérer l'électorat du centre-gauche pour la prochaine élection présidentielle. Était peut-être un peu efficace, mais en tout cas le conflit au sein de La République En Marche est loin d'être éteint sur ce sujet-là. Récemment encore, Macron est allé faire allégeance au pape, c'était au Vatican, et il a redit qu'il était contre l'augmentation de ce délai de pratique de l'IVG. On a même le journal L'Opinion qui rapporte que certains députés ont reçu des textos de Bruno Roger Petit, c'est le conseiller mémoire d'extrême droite quasiment du président de la République, qui a envoyé des textos en disant votez pas le texte. C'est incroyable quand même. Alors ça va coincer au Sénat du coup, parce qu'il faut présenter le texte au Sénat sur un temps accordé aux différents groupes politiques. Donc La République En Marche veut pas. Ah mince. Les écolos non plus. C'est Laurence Rossignol qui a dit en termes pour la gauche, pour le Parti Socialiste, parce qu'ils sont très présents au Sénat, enfin plus que d'autres, qu'ils avaient déjà plein de trucs à présenter et que c'était pas prioritaire. Alors on se dit merde, on en est où? Donc on n'est même pas sûr que ça puisse faire l'objet d'un vrai vote au Sénat et que ce soit enfin adopté. Donc on pense toujours que l'avortement c'est un truc acquis et qu'il faut se battre pour pas que ça recule, mais en fait quand on veut faire progresser le droit à l'avortement, on n'y arrive pas parce que même le centre droit qui est censé représenter Macron est tant en train de basculer du côté de la droite réactionnaire, bloque les évolutions. Donc on est coincé. Pour terminer, on rappelle quand même que je sais pas s'ils vont arriver à le faire passer, si ça va être voté par le Sénat, mais que c'est quelque part un problème qui en cache un autre. Parce qu'une fois qu'on aura l'autorisation à 14 semaines, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que c'est pas possible. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des réductions de budget dans l'hôpital, et notamment dans les centres qui pratiquent l'interruption volontaire de grossesse. Ça a augmenté la durée d'attente. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens qui ont les moyens, les Françaises qui ont les moyens, elles partent à l'étranger se faire avorter parce qu'elles n'arrivent plus à le faire dans les délais imparti. 12 ou 14 semaines, d'ailleurs, ça change pas grand-chose. Et on a le retour de ce qu'on avait avant le droit à l'avortement, c'est-à-dire que ça redevient un privilège pour les personnes, pour les femmes qui ont les moyens, et donc là, les moyens d'aller à l'étranger. Alors, c'est pas la Pologne où tout le monde est, toutes les femmes qui veulent se faire avorter sont obligées d'aller à l'étranger, mais la réduction des budgets de la santé a un impact direct sur le droit à l'IVG. Donc, on est loin de l'application réelle de cette loi, malheureusement.
Alors, il n'y a pas qu'un problème de budget. Il y a un problème de budget, il y a un problème de centre, mais il y a aussi...
De praticiens aussi.
Mais de praticiens et de praticiennes. On sait aujourd'hui que à la fac de médecine, on n'invite pas trop les futurs médecins à s'engager aussi sur cette voie et sur cette pratique. Peut-être aussi parce qu'il y a un certain conservatisme dans certains milieux, mais voilà, c'est pas des professions qui sont dites rentables. Maintenant, on sait qu'il y a effectivement des pratiques qui sont plus lourdes que d'autres. Aller voir un gynécologue pour prendre une pilule abortive, ça reste un acte qui est quand même de proximité et qui devrait être généralisé. Mais aujourd'hui, c'est encore compliqué d'avoir ce geste-là. Parce qu'il faut des gynécologues et des médecins traitants à côté de chez toi qui puissent te recevoir à temps et surtout que toi, en tant que femme, tu sois informée à temps que cette pratique, elle existe et qu'il y a encore trop de femmes et de jeunes femmes qui pensent qu'on est obligé de passer sur le billard pour avoir une interruption volontaire de grossesse. Ce n'est pas le cas. Donc là, on manque très fortement aussi d'informations pour accompagner les femmes à temps. Et puis, il faut mettre des moyens et puis il faut mettre de la communication et puis il faut mettre plein de choses pour accompagner les femmes, quel que soit leur âge.
Voilà. Du coup, la société devenant de plus en plus réactionnaire, c'est un combat qu'il va falloir continuer à mener et ne jamais lâcher, sinon le droit va, les droits à l'avortement vont reculer. C'est la fin.
On va vous laisser pour ce soir, on va vous laisser en compagnie de la petite cuillère qui va prendre la suite. On se retrouvera la semaine prochaine, on sera toujours au mois de décembre. On vous souhaite une très très bonne soirée en compagnie des émissions et des bandes continues de Radio Canu.
Bye bye.
Ciao.